Oui, il passe devant. Pelling est là, il compte! Ryan Pelling! Et le jeune homme va savourer son premier but dans la LNH.
Deslauriers s'installe au cercle gauche, à la pointe gauche. Pelling frappe le poteau, le grand bon!
Ryan Pelling! Et c'est son deuxième du match!
Remise à Lekkonen. Attaque en carte vers Pelling, il
compte! Ryan Pelling! Et les casquettes tombent! C'est son saisit la rondelle, sa main devant Dershowitz, il pointe, il lance le goal! Ryan Pelling marque un autre but!
Et la première étoile, the first star, Ryan Pelling!
Est-ce qu'on a trouvé notre marqueur de 100 buts?
C'est drôle parce qu'après le match, lui-même disait que c'était pas un marqueur naturel, qu'il avait réussi un tour du chapeau au championnat du monde de hockey junior, et avant ça, c'était probablement au secondaire. Ça m'a un peu étonné parce que je sais pas qu'est-ce que Martin McGuire et Danny Dubé en pensent, mais on va leur poser la question. Moi, j'ai trouvé que son troisième but et son but en tir de barrage, c'était des lancers de la Ligue nationale, là, des tirs des poignets, un à gauche, l'autre à droite du gardien. Tu sais, il y avait l'air d'un marqueur, là, et de l'entendre dire que non, moi, je suis plus un passeur, là. Ça,
Martin?
Moi,
honnêtement, moi, je pense que quand Marc Bergevin est retourné à la maison samedi soir, il devait se frotter les mains dans son char. Parce que c'était un match qui s'annonçait un peu moche. Et puis, je pense que le Canadien avait décidé de faire jouer Pelling. Puis même qu'avant le match, moi, je me doutais un petit peu de cette décision-là. On empêchait Thompson de finir la saison alors qu'il avait travaillé avec les autres pour amener l'équipe aux marches des séries. Et puis, il a vraiment sauvé le show. Puis dans le cas de Pelling, ben, je pense que c'est une soirée magique. Ça va-tu être toujours comme ça? J'ai pas l'impression. Même qu'au camp d'entraînement à l'automne, il va être obligé de se battre pour avoir son poste. Les camps sont longs. Mais il démontre des choses intéressantes. On a vu un gars qui est capable d'aller se faire de la place. Il se fait de la place le long des rampes. Il se fait de la place devant le filet. Puis, il a un bon sens du jeu. Ce qu'on disait de lui, là, on l'a vu, évidemment.
OK, Danny.
Danny?
Ben, moi, écoute, honnêtement, j'avais pas d'attente. J'ai aimé ce que j'ai vu. J'ai trouvé qu'il avait un excellent tir très vif. Mais honnêtement, c'est difficile de prendre une lecture parce que le genre de match qu'on a eu, c'est un match tellement ouvert, là. Il y a eu quasiment presque 100 tirs. On voit jamais ça, là, dans la Ligue nationale. En tout cas, pas souvent. Ça avait l'air d'un match préparatoire. Alors, je me garde une petite gêne au niveau de l'évaluation sur une plus longue période, mais ce que j'ai particulièrement aimé, c'est sa combativité, son engagement physique, sa présence au filet. C'est un gros joueur, puis il va en avant du filet. Ses deux premiers buts, là, honnêtement, je les ai aimés plus que les deux autres. Parce que les deux autres, on voyait que bon, il y a un bon tir, tout ça. Mais les deux premiers buts, il va marquer à un endroit où pas beaucoup de joueurs du Canadien réussissent à demeurer, c'est-à-dire sur leur patin, tout ça. Les joueurs du Canadien sont courageux, là, mais lui est beaucoup plus costaud.
Danny, moi, quand je vois Pelling, quand je vois le physique là du bonhomme, et quand une couple de cases à côté dans le vestiaire, je vois Kotkaniemi, tout jeune, puis qui va devenir encore plus grand et plus gros qu'il l'est là, je trouve que ça, c'est encourageant. D'avoir deux joueurs de centre potentiellement habiles et des gars qui vont devenir physiquement assez forts et assez gros pour être capables de bien évoluer dans la Ligue nationale.
Danny, j'écoutais votre émission d'avant-match samedi. Ouais. Et quand Martin t'a posé la question sur l'an prochain, t'as manifesté, je dirais, un enthousiasme modéré sur ce qui attend le Canadien l'an prochain.
Ben, je vais vous donner l'exemple des Panthers de la Floride. L'an passé, les Panthers ont raté les séries à la même place que le Canadien. Dernière équipe éliminée, 96 points. Cette année, les Panthers, c'est une bonne équipe, là. Ils font pas les séries, 86 points. L'année passée, les Devils du New Jersey... ont accumulé quand même 97 points pour une place en série, une des équipes avec la progression la plus fulgurante. Cette année, ils ratent les séries, ils ont 72 points, c'est moins 25. Alors moi, ce que je dis, c'est on voit que l'équipe du Canadien est en progression, il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent, ils ont pris des bonnes décisions, je pense que le fait que de rajeunir l'équipe, c'est important, parce que les Devils du New Jersey, ils ont 25 ans d'âge, eux autres, là, leur moyenne. Les Flyers de Philadelphie, c'est la même chose. Je peux vous en nommer là 6 ou 7 équipes qui ont certaines ont participé aux séries, certaines frappaient à la porte. Veux-tu et m'en donner
un exemple, Danny? Les Nordiques de 91-92, 52 points. L'année d'après, 104.
Ah oui,
et la troisième année, 76.
Les Flyers se sont trouvés un gardien. Les Panthers devraient avoir un vrai coach l'an prochain.
Ben là, parlant des Panthers, c'est confirmé. Joel Quenneville est le nouvel entraîneur. Ouais.
C'est ce que je disais, un vrai coach. Alors, tu sais, inévitablement, ces équipes-là vont s'améliorer. Les Flyers, s'ils avaient eu Carter Hart au début de l'année, là, ils seraient peut-être devant le Canadien là, au moment où on se parle, c'est-à-dire à la conclusion de la saison. Alors, c'est pour ça que c'est pas automatique. Puis, on rappelle l'histoire des blessures. On en a parlé ensemble la semaine dernière. Exactement. Mais le noyau de l'équipe du Canadien n'a pas été affecté par les blessures.
L'autre chose que je lis beaucoup depuis samedi là dans les bilans puis dans ce qui attend le Canadien, on reproche beaucoup aux Canadiens le 10 millions qui était disponible sur la masse salariale cette année. Mmh. Et là, on dit il faut que le Canadien se lance à la chasse aux agents libres. En principe, il devrait y en avoir des bons cette année, là, à moins que ces gars-là ne re-signent avec leur club. Mais tu sais, bon, t'as beau avoir de l'argent à dépenser, il faut que les gars veuillent venir aussi, là, Souvenez-vous de Stachny et Tavares l'an dernier. Là,
exactement.
Le Canadien n'était même pas sur la liste de ces deux gars-là.
Exactement. Tant que l'équipe n'est pas une équipe qui frappe à la porte des séries de la Coupe Stanley, comme des équipes comme Toronto, c'est plus difficile pour le Canadien d'attirer des joueurs. C'est toujours possible, mais c'est plus difficile et ça coûte plus cher.
Oui, puis quand le Canadien n'est pas un prétendant à la Coupe puis qu'ils approchent un joueur autonome, là, les irritants de Montréal deviennent tout à coup plus importants. C'est-à-dire l'omniprésence des médias, la pression continue. Ça, un joueur là, de haut niveau qui se fait offrir un contrat par le Canadien, il va y penser. S'il est tout seul sur la ligne de feu, là, il va réfléchir deux fois. Exactement comme Steven Stamkos avait fait il y a 2 ans quand il a eu l'offre de Toronto. Il a pensé à son affaire puis il a dit « Ouais, OK ». Pour la même affaire, je pense que ça va être plus tranquille à Tampa, alors je suis mieux de rester à Tampa. Alors, ça va se poser, ça, dans le cas du Canadien, parce qu'ils ne sont pas encore des prétendants à la Coupe. Puis, évidemment, il y a l'espèce d'impact fiscal qui, là, quand tu présentes pas une équipe potentiellement championne, là, ça arrive un peu plus haut dans la liste des priorités des joueurs autonomes quand tu es une équipe comme le Canadien.
OK. Quand on pense aux points là, que le Canadien aurait pu récupérer ici à gauche et à droite et faire la différence, faut parler de l'avantage numérique, le pire de la Ligue nationale. Là, quand tu as tout essayé, à peu près tout le monde a joué sur l'avantage numérique cette année. Là, la solution est où, là? Est-ce que tu peux trouver quelqu'un ailleurs, un joueur qui va faire la différence?
Oui, moi je pense que la situation du Canadien, s'il y a une place à améliorer, c'est sûr que bon sur le flanc gauche à la défense, c'est assez évident que c'est pas suffisant là. Kulak puis Mété, c'est pas des joueurs qui devraient jouer sur les deux premières paires dans une équipe qui est compétitive pour gagner la coupe, je veux dire bien sûr là. Mais ceci étant, moi je pense que dans l'enclave, ça te prend un gros joueur, un joueur qui est capable de nuire aux gardiens, puis un joueur capable de compléter les jeux en bas de territoire. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque, dans le dernier droit de la saison, on a ramené Armia dans l'enclave, droitier, lorsqu'on a demandé à Philippe Dano d'être le joueur pivot en bas près du poteau pour faire des passes sur les jeux qui partent du bas du territoire, tout à coup, le Canadien a commencé à avoir un certain succès. Et ça veut dire qu'on a varié les options de jeu. On a arrêté de regarder constamment en direction de Weber. Puis là, on était moins prévisible. Alors moi, je pense que ça, c'est une priorité. S'il y a une place là où le Canadien doit s'améliorer, c'est avec un tireur de premier plan. J'aime bien Joel Armia, mais c'est pas une menace dans la Ligue nationale.
Moi, je pense qu'il y a un profil qui existe, là, puis là, je dis pas que c'est lui, mais il y a un profil dans la Ligue nationale qui existe dans ce chapitre-là. Il s'appelle Anders Lee avec les Islanders de New York. Je pense que c'est le genre de joueur que le Canadien aurait avantage à trouver. Ça sera pas facile à trouver, ça, sur le marché des joueurs autonomes, premièrement, pour les raisons qu'on vient d'évoquer tantôt. Mais il y a un atout que Marc Bergevin a dans sa manche. Quand il aura racheté le contrat de Hausner, qui va bouffer un peu d'argent sur sa masse salariale, salariale et qui aura donné des poignées de main à ceux qui s'en vont à la fin de l'année et qui ne seront pas renouvelés, là, il va avoir un peu de marge de manœuvre pour peut-être essayer de transiger avec une équipe. Puis là, peut-être aller chercher un joueur qui était dans la situation de Tomáš Tatar ou de Domi, par exemple.
Ou ramasser un mauvais contrat là, dans une...
Ben oui, c'est ça. Ou un gars pour qui ça va moins bien dans une autre organisation et un gars en qui tu as confiance en son, en bon québécois, à son leverage, là. Comme ce fut le cas quand ils sont allés chercher Tatar et Domi. On avait confiance que ces deux gars-là avaient du meilleur hockey à offrir. Alors, si le Canadien est capable de trouver un ailier qui est un peu dans ce profil-là, je pense que ça pourrait régler, en tout cas, une partie des problèmes sur l'avantage numérique, parce que vous regarderez les équipes qui ont du succès dans ce département-là, c'est parce qu'ils ont des bons joueurs. Si t'as pas de bons joueurs, en avantage numérique, t'es moyen.
Merci. Là, mais conclusion, Danny.
En conclusion, je veux juste dire que cet aspect-là de l'avantage numérique, c'est venu rattraper le Canadien aussi dans la deuxième moitié de saison. Quand tu regardes les chiffres sur la route, là, ils ont seulement 7 victoires à leurs 19 derniers matchs à l'étranger. Puis c'est là, je pense, où il faut réfléchir à ça. Puis l'avantage numérique est définitivement, en plus du gardien de réserve, c'est deux affaires vraiment importantes.
Parfait. Et vous regarderez la pub de Piqué Souban qui fait la promotion des barbecues Weber.
Est-ce que vous l'avez vu?
Ça doit être savoureux, je ne l'ai pas vu.
Non, écoute,
faut que tu vois ça.
C'est un panneau publicitaire, tu as piqué avec un ustensile de barbecue, là. Mm-hmm. Et il dit « J'aime mon Weber
». Pas pire.
Mais je vous laisserai sur cette réflexion-là.
Allez-y.
Ce sera intéressant de voir le chemin que les Prédateurs feront en série, parce que si le chemin des Prédateurs est court, ça va être intéressant de voir si Piqué va finir son contrat à Nashville.
Oui, pas une grosse saison, faut dire.
Non.
Plutôt tranquille. Merci, voilà. Bonne journée.
Salut.
Martin McGuire, Danny Dubé.
Bye.
C'est incroyable. Hey, on voudrait qu'on réécoute Bergevin, tu comprends, de l'année passée, là, quand tu as fait le bilan. Là.
Oui, sur l'attitude.
Exactement.
L'attitude globale est inexcusable et des changements seront nécessaires. Que j'amène les meilleurs joueurs possibles disponibles et si l'attitude de l'équipe ne change pas, les résultats ne changeront pas.
Mais une meilleure attitude quand même.
Non, ça là-dessus, effectivement, faut lui donner raison. Le spectacle a été meilleur cette année. Ça s'est gâté peut-être un peu en fin de saison, là, comme disait Danny, mais de façon générale. Mais tu sais, il faut être honnête aussi, là, la barre n'était pas bien haute par rapport à l'an dernier. Là.
Non, mais au moins, c'est une bonne progression.
Oui, c'est ça.
Le spectacle est plus intéressant.
Puis l'avenir, tu sais, ils joueront probablement pas tous dans la Ligue nationale, les jeunes dont on parle, mais l'avenir est plus intéressant.
C'est avec respect, là, que je dis ça, on s'en fout.
Voilà, c'est... Toi, Claude, là, t'as entendu Danny, t'as entendu Martin, Alain et tout ça. Est-ce que ça pèse dans ton analyse, ça?
On s'en fout.
Merci beaucoup. 8h28. L'autoroute 15.